Le retour de l'émigrant ou Noël après 15 ans d'absence. Charles Dickens. Seize ans sont écoulés depuis le jour où, turbulent et mécontent jeune homme, je quittais l'Angleterre pour l'Australie. Pour la première fois, j'étudiais sérieusement la géographie quand je fis pivoter un grand globe terrestre afin d'y chercher l'Australie méridionale, la colonie alors à la mode. Mes tuteurs, j'étais orphelin, furent charmés de se débarrasser d'un personnage si tracassier. Je me trouvais donc, bientôt, le fier possesseur d'un lot de terres urbaines et d'un lot de terres rurales dans la colonie modèle de l'Australie méridionale. Mon voyage fut assez agréable sur un excellent navire, avec la meilleure table tous les jours, et personne pour me dire « Charles, c'est assez de vin comme cela !» C'était dans des circonstances bien différentes que se trouvaient beaucoup de mes compagnons d'émigration. Parmi eux, des pères et des mères de famille, avec leurs enfants, avaient quitté de confortables demeures, de bons petits revenus, de jolies propriétés ou des professions respectables, séduits par les orateurs des meetings publics ou par ces éblouissants prospectus qui décrivent les charmes de la vie coloniale dans une colonie modèle. J'appris à fumer, à boire du grog et à briser d'une balle de fusil ou de pistolet une bouteille suspendue à un bout de vergue. Nous avions à bord de très aimables vauriens, des ex-cornettes, des ex-lieutenants, des anciens employés du gouvernement, des avocats sans cause, des médecins sans malade, des fruits secs d'Oxford, la bourse aussi vide que la tête pour la plupart, mais de bonne mine et bien mis. Bon nombre avaient fumé dans de magnifiques pipes d'écume de mer, sablé le champagne, le bourgogne et le vin du Rhin, échangé des coups d'épée ou de pistolet, galopé dans les courses au clocher et contracté des dettes dans toutes les capitales de l'Europe. Ces fils de famille fumèrent mes cigares, me permirent de leur payer du champagne et m'enseignèrent, moyennant quelques menus frais, l'art de jouer au whist, à l'écarté et à la mouche dans le style fashionable. Ils m'apprirent aussi à recevoir avec la hauteur convenable les avances des passagers du second ordre. À la fin des 100 jours de notre traversée, j'étais remarquablement changé. Mais valais-je mieux? Là était la question. Car mes nouveaux amis m'avaient inculqué leur grand principe. Regarder tout travail comme dégradant et les dettes comme séant à merveille à un gentleman. Les idées que je m'étais faites d'une colonie modèle avec tous les éléments de la civilisation telle qu'on nous la promettait à Londres furent un peu renversées quand j'aperçus, en débarquant, dans l'espace même que devait envahir la marée haute et sur la plage sablonneuse, des monceaux de meubles, un ou deux pianos, un grand nombre d'armoires et de commodes et, je m'en souviens surtout, un grand coffre en chaîne bardée de fer, à moitié plein de sable et vide du reste. La cause de cet abandon de mobilier me fut clairement expliquée par la demande qu'on me fit de 10 livres sterlings pour transporter mes bagages à la ville d'Adélaïde, distante de 7 milles du port, sur un chariot attelé de bœuf. Notez que les 10 bagages ne formaient pas la moitié du chargement. La ville même d'Adélaïde, si magnifique en aquarelle dans les salons de la Société d'émigration à Londres, n'était à cette époque qu'un amas pittoresque, si l'on veut, mais à coup sûr très peu confortable, de tentes en toile, de huttes en boue et de cottages en bois un peu plus grand que le chenil d'un chien de Terre-Neuve, mais dont la location coûtait aussi cher que celle d'un manoir rural dans n'importe quel comté d'Angleterre. Mon intention n'est pas de raconter ici la rapide décadence de la colonie modèle et des colons de l'Australie méridionale, ni l'élévation et le progrès des mines de cuivre. Je ne restais pas assez longtemps à Adélaïde pour être témoin de ces doux événements. Dans le premier, sauf qui peut général, j'acceptais l'offre d'un homme qui, sous une rude enveloppe, avait de grandes qualités. Une espèce de diamant brut, un colon de la vieille colonie, qui avait traversé tout le pays pour venir vendre aux Adélaïdiens un lot de bêtes à cornes et de chevaux. Je fus redevable de sa faveur à l'habileté que j'avais déployée en saignant un poulain de prix dans un moment critique. C'était l'une des rares choses utiles que j'eusse apprises en Angleterre. Tandis que mes fashionables compagnons, cruellement désappointés, s'enivraient jusqu'à se donner le délirium tremens sans relais dans la police, acceptaient des emplois de berger, piquaient l'assiette des gens de rien, suppliaient les capitaines en partance de les laisser regagner l'Angleterre sur le gaillard d'avant, il m'offrit de m'emmener avec lui sur sa terre dans l'intérieur et de faire de moi un homme. Tournant le dos à l'Australie méridionale, j'abandonnais à la nature mon lot rural, situé sur une hauteur inaccessible, et je vendis mon lot urbain pour 5 livres. Le travail, je commençais à m'en apercevoir, était le seul moyen de se tirer d'affaires dans une colonie, plus encore qu'ailleurs. Me voilà donc parti pour le bush lointain et les plaines solitaires d'un district où la colonisation en était à ses débuts. Constamment occupé à surveiller les bergers presque aussi sauvages du gros et du petit bétail de mon nouveau patron, tantôt passant des jours entiers à cheval, tantôt forcé de donner toute mon attention aux détails d'un vaste établissement agricole, j'eus bientôt fait peau neuve. Mes prétentions fashionables se trouvaient mises à néant. Ma vie devint une réalité qui dépendait de mes propres efforts. Ce fut alors que mon cœur changea à son tour. Ce fut alors que je commençais à penser tendrement aux frères et aux sœurs que j'avais laissés derrière moi et tant négligés au jour de mon égoïsme. Rarement l'occasion de leur faire parvenir mes lettres s'offrait plus de 2 fois l'an. Mais la plume, qui me répugnait tant jadis, devint ma grande ressource aux heures de loisir. Combien de fois, assis dans ma hutte, j'ai passé une partie de la nuit à confier au papier mes pensées, mes sentiments, mes regrets. Cependant, le feu allumé devant cette hutte et autour duquel étaient étendus mes hommes endormis me faisait souvenir que je n'étais pas seul dans le grand désert pastoral qui se déroulait à plusieurs centaines de milles autour de moi. Puis, soudain, des sons étranges parlaient à mon esprit comme la voix de ces contrées étranges où j'étais transplanté. C'était le hurlement du dingo, espèce de chien-loup, rôdant autour de nos bergeries, l'aboiement de défis des chiens vigilants, le cri des oiseaux nocturnes, les chants sauvages des indigènes exécutant sur les hauteurs montagneuses leurs danses fantastiques et jouant des drames où ils représentaient le meurtre de l'homme blanc et le pillage de ses troupeaux. Quand ces bruits parvenaient à mon oreille, mes yeux se portaient instinctivement sur le râtelier auquel étaient suspendues mes armes chargées. Et hors de la hutte, à l'endroit où le rebelle irlandais O'Donoghue et l'ancien braconnier Giles Brown, transformé en sentinelle fidèle, se promenaient en long et en large, le fusil sur l'épaule, prêt à mourir plutôt que de se rendre. Dans ce vaste désert, tous les petits soucis de la vie des cités, toutes les petites roueries de la spéculation, tous les petits moyens de garder les apparences devenaient inutiles et s'oubliaient bientôt. Non seulement je lus et relus le peu de livres que je possédais, mais je les appris par cœur. Si dans la matinée je fatiguais les chevaux pour faire mes rondes, si je maintenais la paix entre mes hommes par de rudes paroles et même par des coups, assis à l'écart, dans la soirée, j'ouvrais la Bible et je me laissais absorber tout entier dans les pérégrinations d'Abraham, les épreuves de Job ou les psaumes de David. Puis, passant de la loi ancienne à la loi nouvelle, je suivais Saint Jean dans un désert qui n'était pas sans ressemblance avec celui que j'avais sous les yeux, où j'écoutais, loin des villes, le sermon sur la montagne. D'autres fois, lorsque je traversais à pied les forêts, j'y répétais le dialogue des personnages de Shakespeare ou, à l'aide d'une traduction de Pope, les discours des héros d'Homère, que je pouvais souvent m'appliquer à moi-même, car dans ces régions solitaires, comme ces héros, j'étais chef guerrier et presque prêtre. En effet, survenait-il une mort, je lisais le service funèbre. Ce fut ainsi que je refis mon éducation. Aux heures où je me rappelais mes amis négligés, les occasions perdues et les scènes riantes de mon comté natal, j'aimais surtout à me figurer que j'assistais encore aux fêtes de Noël dans ma vieille Angleterre bien-aimée. Pendant notre été brûlant du mois de décembre en Australie, quand la grande rivière qui arrosait et bornait nos pâturages n'était plus qu'une suite d'étangs en grande partie desséchés, quand nos troupeaux pantelaient autour de moi à l'heure tranquille du soir, quand les étoiles brillant d'un éclat inconnu aux climats septentrionaux réalisaient l'idée de la nuit bienheureuse où l'étoile de Bethléem apparut et guida les rois d'Orient dans leur pieux pèlerinage, mes pensées voyageaient à travers la mer. Je ne sentais plus la chaleur étouffante, je n'entendais plus le cri des oiseaux de nuit ni les hurlements du dingo. J'étais au-delà des mers, au milieu de ceux qui célébraient la Noël. Je voyais les joyeux visages de mes proches et de mes amis rayonner autour de la table de Noël. On disait les grâces, on proposait un toast aux absents. Lorsqu'on prononçait mon nom, les plus gais visages devenaient tristes. Alors, je me réveillais de mon rêve, je me retrouvais seule et je pleurais. Mais une vie d'action ne laisse pas de temps pour les chagrins inutiles, bien qu'elle en laisse assez pour les réflexions et les projets d'avenir. Je résolus donc, après beaucoup de visions semblables, qu'un temps viendrait où par une belle soirée de Noël, l'Australien lui-même répondrait au toast porté. Aux amis absents ! Ce temps est, en effet, venu l'année même qui a terminé le dernier demi-siècle. Un travail sérieux, une sage économie, m'avait fait prospérer. Le riche district, dont j'avais été l'un des premiers pionniers, s'était colonisé et pacifié sur toute l'étendue qu'embrasse la rivière. Les sauvages Mials s'étaient laissés apprivoiser, avaient renoncé à leur indépendance et s'offraient eux-mêmes pour garder nos troupeaux. Des milliers de bêtes à laine sur les collines et de bêtes à cornes dans les riches prairies m'appartenaient. La hutte d'écorce s'était changée en un cottage entouré de balcons, comme les chalets suisses. Intérieurement, les livres et les tableaux ne formaient pas une insignifiante part du mobilier. J'avais des voisins, à la distance d'une promenade à cheval, et de douces voix d'enfants réveillaient souvent l'écho du rivage. Alors, je me dis à moi-même, « Maintenant, je puis retourner, non pour ne plus revenir, car la terre que j'ai conquise sur le désert sera ma demeure pour le reste de ma vie, mais je retournerai pour serrer les mains qui, depuis tant d'années, désire serrer les miennes. Pour sécher les larmes que des sœurs chéries répandent quand elles pensent à moi, le banni volontaire, pour prendre sur mes genoux ces pauvres petites à qui l'on apprend à prier pour leur oncle dans un lointain pays au-delà de la vaste et profonde mer. Peut-être avais-je aussi l'arrière-pensée de décider quelques visages de la vieille Angleterre, quelques vrais cœurs anglais, à partager ma demeure pastorale. Je retournais donc, et je foulais de nouveau le sol de la mère patrie. Là, folle attente du jeune homme avait été déçue, mais j'avais réalisé de meilleures espérances. Si je ne revenais pas chargé de trésors pour rivaliser avec les objets de ma juvénile et jalouse vanité, je revenais reconnaissant, satisfait de moi-même, indépendant, pour revoir une fois encore mon pays natal et retourner me fixer sur la terre de mon adoption. On était au milieu de l'hiver quand je débarquais à un petit port de l'extrémité occidentale de l'Angleterre, car mon impatience me fit profiter, durant un calme dans le canal d'Irlande, du premier bateau de pêcheurs qui nous accosta. Plus nous approchions, plus croissait mon impatience d'être à terre. Je voulus absolument me mettre à l'une des rames, et à peine le bateau eut-il touché le fond, que, me jetant dans l'eau, je gagnais à gué le rivage. Oh, gens du grand monde à qui la vie est si facile, il y a des plaisirs que vous ne goûterez jamais. Et parmi ces plaisirs-là, l'enthousiasme, l'admiration profondément sentie de l'habitant des plaines pastorales quand il se retrouve sur le sol paternel, au milieu des jardins de l'Angleterre. Oui, jardin est le seul mot qui exprime bien l'aspect de notre Angleterre, surtout dans l'Ouest, où le myrte conserve sa feuille verte et lustrée tout l'hiver, et où les routes près de toutes les villes sont bordées de charmants cottages. Je trouvais à chaque mille un nouvel objet d'admiration. J'admirais surtout le coloris frais et sain des gens du peuple, les robustes jeunes filles au teint pourtant si délicat, revenant en grand nombre du marché, le panier à la main, n'étaient pas la moins attrayante des surprises pour un homme habitué depuis longtemps à vivre dans une contrée où l'arrivée d'un joli visage blanc et rose était un événement. L'approche de la première grande ville me fut signalée par des indices moins agréables et même très pénibles. Des mendiants, couverts de haillons, se tenaient sur mon passage et invoquaient la charité du voyageur. D'autres personnes d'un extérieur non moins digne de pitié ne mendiaient pas, mais semblaient si exténuées, si souffreteuses, que mon cœur saignait. Il n'y eut aucune des mains tendues vers moi qui ne reçut mon aumône. Je donnais également à celle qui n'osait la réclamer, au grand étonnement du cocher, qui s'étonna bien davantage quand je lui dis que je venais d'un pays où il n'y avait d'autres pauvres que les ivrognes et les feignants. À mon entrée dans une grande ville, le tumulte, le tourbillon des passants à pied, à cheval, en véhicules de toutes sortes, m'étourdit. J'eus une espèce de cauchemar. Les signes extérieurs de la richesse, les conforts de la civilisation, allant au devant de tous les besoins imaginables, avaient un air tout à fait étrange pour moi, qui sortait d'un pays où le travail valide était constamment requis, où on n'hésitait pas à entreprendre le plus long voyage à travers des déserts non frayés, avec une couverture et un pot d'étain pour tout équipement et tout appareil culinaire. Je consultai le maître de l'auberge pour lui demander si je pourrais gagner en 2 jours le Yorkshire, car il me tardait d'être avec mes amis. « Si vous couchez ici ce soir, » me répondit-il, « vous pourrez arriver à temps demain par le chemin de fer pour prendre votre part de la fête de Noël. » Jamais je ne me serais imaginé cela et je ne me faisais qu'une idée bien vague de ce que pouvait être un chemin de fer. Arrivé le lendemain au débarcadère, juste à temps pour prendre place dans le train de départ, je fus un peu déconcertée quand, au bruit strident d'un sifflet, la locomotive se mit en mouvement et nous nous sentîmes emportés comme dans un tourbillon. J'avais honte de ma peur. Et pourtant, bien des gens dans ce convoi auraient reculé durant un voyage de mer comme celui que je venais de faire et trouvé peut-être plus effrayant encore un des solitaires voyages à cheval dans le bush de l'Australie, qui me semblait, à moi, tout naturel. J'atteignis sans accident la station voisine d'York. Là, je devais prendre un moyen de transport particulier pour atteindre, par une route de traverse, la maison où l'un de mes frères faisait valoir une ferme de quelques centaines d'acres de ses propres terres et réunissait, je le savais, à l'époque de la Noël, le plus grand nombre possible des membres de la famille. La petite auberge dans laquelle j'étais descendue me fournit un cabriolet conduit par un postillon, visiblement tombé en décadence. Quand je voulus le questionner, je retrouvais, dans mon nouveau compagnon, une ancienne connaissance. Cependant, je ne lui révélais pas tout d'abord qui j'étais. Mon aîné, de quelques années seulement, mais aigri par la perte de son métier et menacé de la misère, n'ayant plus qu'une santé ruinée, le pauvre postillon envisageait la vie d'un tout autre point de vue que tous ceux avec qui j'avais lié conversation. Sur toute ma route, à travers l'Angleterre, l'état de prospérité visible des voyageurs de première classe m'avait frappé. Pour lui, au contraire, il avait tout perdu, son emploi et sa gloire. Il était obligé de faire tout, de porter tout, au lieu de son ancien costume si pimpant, de son ancien métier si agréable. Adieu la veste écarlate, adieu le joyeux galop, les généreux pourboires des voyageurs, les bons dîners des hôtels où s'arrêtaient les chaises de poste. Dans son humour noir, l'infortuné avait à raconter 20 histoires plus tristes que la sienne et dont les héros étaient d'anciens maîtres de poste, réduits à entrer au dépôt de mendicité, des cochers mendiant leur pain avec la main, qui conduisaient naguère 4 chevaux à longue guide, des fermiers descendus au métier de laboureur salarié. Ces récits se terminaient par une lamentation sur la destinée de ceux qui n'étaient pas assez forts pour suivre la course du progrès en Angleterre. Je commençais alors à reconnaître moi-même qu'il pouvait y avoir 2 faces à ce séduisant tableau qu'on admire à travers les glaces d'un wagon de première classe. Les jouissances du luxe, les douceurs de la vie que procurent les taxes et les droits payés pour les barrières valent bien ce qu'elles coûtent pour ceux qui peuvent les payer. Mais ceux qui ne le peuvent pas feront mieux de chercher fortune aux colonies. Pensant et parlant ainsi à mesure que j'approchais de l'endroit où je devais apparaître, à l'improviste, devant une réunion de mes parents, je sentais mon premier enthousiasme s'évanouir. Mon cœur avait d'abord été rempli d'une joie expansive par la fière conscience d'avoir été l'artisan de ma fortune et par la beauté des scènes de l'hiver. Car l'hiver, couvrant de ses blanches stalactites les arbres et le feuillage, avait une éblouissante beauté pour des yeux accoutumés, comme les miens, à la perpétuelle et brune verdure de l'Australie semi-tropicale. Je répondais gaiement au « Bonsoir, monsieur » des paysans qui passaient à côté de nous, et les vigoureuses bouffées de ma pipe favorite mêlaient leurs nuages à ceux qu'exhalait notre hôte en sueur. Mais les tristes histoires que le postillon se plaisait à raconter avaient refroidi beaucoup ma bonne humeur. Je laissais ma pipe s'épuiser et s'éteindre. Mon menton retomba tristement sur ma poitrine. Puis, tout à coup, je lui demandai s'il connaissait les Barnards. « Oh, Oui, il les connaissait tous. Monsieur John avait eu une chance toute particulière car le chemin de fer passait à travers une de ses fermes. Il avait mené un monsieur et sa dame aux noces de Miss Marguerite et conduit une voiture de deuil à l'enterrement de Miss Marie. La jument du cabriolet avait appartenu à monsieur John et ça avait été autrefois un fameux cheval de chasse. Monsieur Robert l'avait traité lui-même pour des rhumatismes. Je lui demandais s'il ne connaissait pas d'autres membres de la famille. Aussi fait, je connais, c'est-à-dire je connaissais aussi Monsieur Charles, mais celui-là est parti pour les pays étrangers. Les indices qu'il y est mort, qu'il s'est fait tuer, pendre, ou quelque chose d'approchant. D'autres assurent qu'il a fait fortune. C'est un fameux gaillard, celui-là. Bien des fois, il s'est mis en campagne avec quelqu'un de ma connaissance toute particulière pour tendre des pièges aux lièvres ou enfumer des faisans. Je porte encore au front la marque d'un coup que je reçus en tombant le jour où celui que je veux dire mit un bouchon de genêt épineux dans la queue d'un cheval que je dressais. C'était un drôle de corps sur mon âme. Il n'en restait guère de bons sentiments dans le cœur du pauvre diable de Postillon. La perte de son emploi, la misère, la boisson avaient terriblement changé le beau et vigoureux gaillard qui paraissait avoir à peine 10 ans de plus que moi à l'époque de mon départ d'Angleterre. « Et quoi, Joe ?» lui dis-je en me tournant tout à fait vers lui. « Vous ne semblez pas vous souvenir de moi. Je suis Charles Barnard. » « Bon Dieu, monsieur !» me répondit-il d'un ton pleureur et servile. « Je vous en demande bien pardon. Vous êtes devenu un homme si important. J'étais toujours sûr que vous iriez loin. Ainsi donc, vous allez dîner avec monsieur John. Ah ça, monsieur, j'espère qu'en faveur de la vieille connaissance, vous n'oublierez pas ma tirelire de Noël. » Je me sentis repoussé par ces paroles. J'aurais voulu être déjà de retour en Australie. Mon esprit commençait à concevoir des craintes sur la sagesse de ma visite imprévue à ma famille. Il faisait un beau clair de lune quand notre cabriolet entra dans le village. J'avais encore 1 mile à faire à pied, car je voulais me débarrasser du bavardage peu récréatif de Joe. Laissant donc l'ex-postillon se régaler d'un souper chaud et noyer ses soucis dans des flots d'âles, je marchais rapidement jusqu'à proximité de la vieille maison, autrefois le manoir patrimonial, mais les terres en avaient été depuis longtemps divisées. Je m'arrêtais. Mon courage faiblit un moment où je traversais la grille, dont le bruit fit aboyer violemment les chiens. J'étais un étranger pour eux. Les chiens qui me connaissaient étaient morts depuis longtemps. 2 fois, je fis le tour de la maison, réprimant avec peine mon émotion avant de trouver le courage d'approcher de la porte. Les éclats de rire, la joyeuse musique qui résonnait de temps en temps, les lumières qui voltigeaient d'une croisée à l'autre dans les chambres d'en haut, me remplissait d'émotions à la fois douces et pénibles qui depuis longtemps m'étaient inconnues. Il y avait du roman dans ma mystérieuse arrivée, mais le roman a toujours sa part dans une vie de solitude. Très déraisonnablement, j'éprouvais d'abord une certaine vexation de voir qu'on était si joyeux en mon absence. Mais l'instant d'après, de meilleurs sentiments prévalurent. Je m'approchais de la porte que je reconnaissais si bien et je frappai un grand coup. La servante ouvrit sans me faire de questions car on attendait beaucoup de convives. Au moment où je me baissais pour me débarrasser de mon manteau et de mon chapeau, une jolie enfant en robe blanche descendit l'escalier en courant, jeta ses bras autour de mon cou, m'appliqua un gros baiser et s'écria.
« Je vous ai attrapé sous le gui, cousin Alfred !»
Puis, presque aussitôt, en me regardant avec ses yeux bruns timides,
Qui êtes-vous ? Êtes-vous encore un nouvel oncle ?
Oh, combien mon cœur se sentit soulagé. L'enfant avait saisi une ressemblance. Je ne serais donc pas méconnue par les miens. Tous mes plans, tous mes préparatifs furent oubliés. J'étais au milieu d'eux. Et je voyais après 15 ans le foyer de Noël, la table de Noël, les visages de Noël dont j'avais si souvent rêvé. D'écrire cette nuit-là me serait impossible. Longtemps, après minuit, nous étions encore assis tous ensemble. Les enfants ne voulaient pas quitter mes genoux pour aller au lit. Mes frères ne se lassaient pas de me regarder. Mes sœurs étaient groupées autour de moi, baisaient mes joues barbues et brunies et pressaient mes mains brûlées du soleil. Je verrai peut-être encore bien de nouvelles et riantes scènes de Noël, mais jamais une Noël semblable à celle qui accueillit le banni volontaire à son retour. Cependant, quoique l'Angleterre ait ses bienheureuses saisons et ses joyeuses fêtes, en tête desquelles figure la Noël, et quoique cette Noël-là doive bien des fois encore revivre dans ma mémoire, je ne puis rester en Angleterre. Ma vie a pris le moule de mon pays adoptif. Là où j'ai fait ma fortune, là je dois en jouir. Les entraves, les conventions, les liens créés par les divisions infinies de la société sont plus que je ne puis supporter. Le souci semble siéger sur tous les fronts. Et sur un trop grand nombre, le dédaigneux orgueil d'une supériorité sociale imaginaire. J'ai trouvé le visage au teint de rose et le loyal cœur de l'inconnu dont j'avais souvent rêvé dans mes nuits solitaires. Une jeune personne écoutait, d'une oreille attentive, émue, durant la semaine de Noël, les récits de l'Australien, que mes amis ne se lassaient pas d'entendre. Elle est prête à tout quitter pour me suivre dans ma demeure pastorale. Je fais actuellement mes préparatifs de départ et ni la société, ni les livres, ni la musique ne manqueront dans ce qui n'était, quand j'y arrivais pour la première fois, qu'une forêt et un désert d'herbage peuplé d'oiseaux sauvages et de kangourous. Près de 20 parents m'accompagnent, dont plusieurs passablement pauvres, mais là-bas, peu importe. Dans quelques années, vous verrez figurer l'établissement de Barnard Town sur toutes les cartes d'Australie. Et là, au temps de la Noël, comme en tout temps, les hommes au cœur franc, les femmes au bon cœur, trouveront toujours aide et sympathique accueil. Car je n'oublierai jamais comment j'ai débuté moi-même dans ce monde lointain, berger perdu dans la solitude, regardant luire les étoiles dans un ciel sans nuages.
Roslyn, angel child, I said, Roslyn, angel child, when the white man came and he took you all the way, I said, Roslyn, it's not right, you're my angel child. Well, they took you from my arms. Yeah, they took you from my arms. With the Lord and a gun, they'll keep you safe from harm. If only they knew what they'd done. When they took you from my arms. Now they said that I didn't love you, and they said that I didn't care. When you asked where I was, they told you I was dead, and they said that I didn't care. They told my babies I was dead. I said, Roslyn, angel child. I said, Roslyn, angel child. Thank you.